Orient Hebdo, Éric Bataillon.
En 2011, en Tunisie, la situation économique avait joué un rôle déterminant dans le succès de la révolution. Celle que connaît la Tunisie aujourd'hui, catastrophique, jouera-t-elle à son tour un rôle clé lors des élections législatives du 17 décembre prochain? Et même si les questions politiques et sociales demeurent au premier plan, l'ancien ministre de l'économie, Hakim Ben Hamouda, estime que les dirigeants actuels ne pourront pas faire l'impasse sur ce sujet essentiel pour l'avenir du pays. Un entretien à retrouver sur notre site RFI.fr ou en podcast sur notre application Pure Radio. Et pour rejoindre l'ancien ministre, nous traversons la Médina, la ville arabe de Tunis.
Bonjour, ça va monsieur?
Bonjour monsieur.
Ça c'est le vrai artisanat.
Ah oui.
Je suis spécialiste dans le souk.
Qu'est-ce que vous faites précisément?
Mais maintenant je fais les plateaux, tu vois. Il faut taper, ouais.
Avec le marteau?
Avec le marteau, ouais. Ça se vend pas ces outils-là, c'est moi-même qui le fais, tu vois.
D'accord.
Parce que nous n'avons pas une école qui a pris ce métier-là, tiens. Et puis ça c'est l'artisanat tunisien, c'est pas chinois, hein. Parce qu'avant, nous, les Tunisiens, les rois de cuivre, mieux que Maroc, mieux que l'Algérie. Mais maintenant, on a changé, tu vois. Le produit chinois est beaucoup ici à Tunis, je ne sais pas. Alors, pourquoi nous, les artistes, on est en chômage, tu vois.
Mais ça, vous continuez à travailler de toute façon.
Oui, bien sûr, ça c'est mon métier. Tiens, je gagne bien, je travaille avec les touristes. Tu vois là, voilà, en train de faire les prénoms. Ça, c'est un surcommande.
Magnifique.
Normalement, je ne le fais pas ici, je le fais ailleurs. Mais maintenant, il faut tirer les clients, tu vois, ce produit-là. Alors, nous, on travaille à la manche.
Bonjour, Hakim Ben Hamouda.
Bonjour, Éric Bataillon.
Quel rôle l'économie a-t-elle joué dans les printemps arabes à partir de 2011?
Je pense à dire que c'est les inégalités sociales, c'est les facteurs économiques. Mais je crois que les facteurs économiques ont joué un rôle important, mais parallèlement avec d'autres facteurs, la question des libertés politiques, l'autoritarisme anachronique de plus en plus important, le népotisme, la montée de la corruption. Les gens n'acceptaient plus des formes de corruption qui étaient connues par tout le monde, des familles au pouvoir. Mais il y a eu aussi le facteur économique et sociaux, deux facteurs importants sur lesquels moi j'insiste. Le premier, c'est bien évidemment l'échec des modèles de développement mis en place qui étaient basés sur les faibles coûts de main-d'œuvre et donc qui avaient du mal à absorber les ingénieurs, les nouveaux diplômés. Et donc finalement, l'école jouait de moins en moins son rôle comme un ascenseur de promotion sociale. Donc ça, c'est un facteur qui a joué un rôle important. Deuxième chose, c'est vraiment l'échec d'une vision du développement. Vision du développement, les années 80-90, après la crise de la dette, on a surtout mis l'accent sur la stabilisation des grands équilibres macroéconomiques. Et on a oublié, au fait, que les équilibres sociaux, on n'a pas voulu voir la montée de la marginalisation, la montée des inégalités. Et c'est un petit peu ça qui a été à la fin un facteur important dans la crise qui va emporter les régimes à partir de fin 2010 et toute l'année 2011.
Quelles sont les caractéristiques de la situation économique de la Tunisie aujourd'hui?
Oh, trois éléments importants. On reste toujours dans la crise du modèle de développement. Les différents gouvernements qui sont arrivés au pouvoir depuis 2011 n'ont pas été en mesure de définir un nouveau modèle de développement. Donc du coup, le chômage n'a fait qu'augmenter, particulièrement le chômage des diplômés. Donc on reste sur un des échecs des gouvernements post-révolutionnaires, c'est l'incapacité à proposer des perspectives de long terme, de stratégies de long terme. Et on est resté, tous les gouvernements, dans la gestion du très très proche court terme, payer les salaires, assurer les subventions. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, en fait, la crise, ça c'est la première crise. Moi, je parle de trois crises en Tunisie, comme dans beaucoup de pays arabes. La première crise, c'est la crise structurelle. La deuxième crise, ça a été la crise macroéconomique, ou conjoncturelle, pour reprendre les termes des économistes. Ne pouvons pas mettre en place un nouveau modèle de développement capable d'absorber les jeunes et les nouvelles générations de diplômés, En fait, c'est la fonction publique et c'est les entreprises publiques qui ont été trouvées comme solution. Et c'est devenu l'objectif, c'est devenu l'espoir de tous les jeunes Tunisiens. Donc ça a été à l'origine de grands déséquilibres macroéconomiques. Le troisième aspect, c'est les effets, comment dire, des facteurs exogènes ou des facteurs externes, notamment la pandémie. Et deuxièmement, la guerre en Ukraine, qui a eu deux effets importants, la hausse des prix du cours du baril de pétrole et la hausse également des produits agricoles, notamment les céréales. Deux produits fortement subventionnés par l'État tunisien et donc par conséquent, l'augmentation de leurs prix au niveau international n'a fait que renforcer la crise des finances publiques et les dépenses de l'État.
Concernant le modèle de développement, est-ce que, de votre point de vue, les différents gouvernements qui se sont succédés depuis 2011 ont failli dans ce domaine? Ils n'avaient pas de vision, c'est cela?
Oui, totalement. Ils ont totalement failli, ils n'avaient pas de vision. Pas tout le temps de leur faute, parce que la longévité, le modèle de développement, c'est un travail au moins de moyen terme, 3, 4 ans, 5 ans, et puis donne les fruits après. Mais aucun des gouvernements n'avait cette longévité. Donc c'était des gouvernements à longévité très très courte, entre 12 et 18 mois, ce qui n'était pas assez pour formuler. Et puis de l'autre côté, il y avait des gouvernements qui n'avaient pas de vision, qui n'avaient pas de projet, de grands projets économiques.
Mais vous-même, vous avez participé en tant que ministre de l'économie à différents gouvernements en 2014 et 2015. Donc, vous étiez aussi, d'une certaine façon, aux manettes, comme l'on dit, et cela n'a pas suffi. Vous pouviez développer vous-même une politique particulière ?
Non, bien sûr. J'étais membre d'un seul gouvernement, qui est le gouvernement de Mehdi Jomara, qui est le gouvernement technocrate, qui a exercé le pouvoir exécutif pendant 12 mois. Et c'était un gouvernement de transition, donc dont l'objectif était de préparer des élections pour sortir de la crise, la grande crise de 2013. Et le basculement, en fait, des printemps arabes en 2013, c'était une année importante, l'année 2013, parce qu'elle a été le basculement des printemps arabes dans l'horreur, comme le cas de la Syrie, du Yémen et de la Libye. L'Égypte d'un coup, restait que la Tunisie, mais a commencé quand même à connaître les attentats terroristes, etc. Donc ce gouvernement a été formé à ce moment-là, avec une durée de vie très courte, 12 mois, une année, avec un double objectif, d'abord de préparer les élections 2014. On était indépendant, donc on était donc neutre, et il y avait une confiance pour qu'on organise les élections. Et la deuxième chose, c'était pour assainir un tout petit peu la situation économique. Donc la responsabilité, et d'ailleurs lorsqu'on a attaqué les réformes, les forces politiques et d'opposition nous critiquaient en disant « c'est pas votre rôle, vous, c'est un mandat transitoire, vous n'allez pas vous engager dans des réformes à long terme ». Et ils n'avaient pas tort non plus. Les réformes de long terme doivent être mises en place par des gouvernements élus. Nous ne l'étions pas. Et donc c'est un petit peu ce contexte. Donc on avait une marge de liberté qui était d'action très très limité, mais on avait discuté à beaucoup d'occasions les grandes priorités et surtout on avait laissé au gouvernement qui nous a succédé fait un grand projet de développement économique et voilà.
Hakim Ben Hamouda, est-ce qu'aujourd'hui la situation de la Tunisie est rendue encore plus critique par les suites évidemment du Covid et puis aussi la guerre en Ukraine comme vous l'avez indiqué?
Ah oui, bien sûr, oui. La situation tunisienne aujourd'hui est complexe et difficile pour différentes raisons. D'abord, les changements institutionnels qui suscitent de l'opposition, des gens qui sont pour en interne, mais qui suscitent aussi des inquiétudes au niveau international. On a besoin d'une plus grande clarté, d'une plus grande stabilité politique. Ensuite, la situation internationale et particulièrement, comme vous l'avez dit, la guerre en Ukraine, le Covid est toujours là, est toujours présent. Covid a été un choc pour la Tunisie, dont le système de santé était très, très développé. Elle a eu un effet, parce qu'il y a eu des retards dans l'accès aux vaccins, etc. Juillet 2021, ça a été terrible. On a eu jusqu'à 300 morts par jour, pénurie d'oxygène. Et ça a été vraiment un énorme... la situation est en train de se stabiliser maintenant, mais le pays continue à souffrir de la... Mais cette situation a eu un effet important sur l'économie tunisienne. Et ensuite, bien évidemment, la guerre en Ukraine. L'instabilité, je dirais, internationale qu'elle a créée, elle est aussi à l'origine de l'augmentation importante des prix du pétrole, des cours du pétrole au niveau international, et des cours de matières premières, notamment agricoles et particulièrement les céréales, qui ont un effet immédiat sur les finances publiques, sur notre déficit commercial en Tunisie. Donc une situation qui, véritablement, pose beaucoup de difficultés à la Tunisie.
Avez-vous néanmoins des raisons d'être optimiste? Et si oui, lesquelles?
Oui, moi, très franchement, j'ai des raisons d'être optimiste. Souvent, on me critique mon excès d'optimisme, mais je crois, franchement, il y a trois effets qui me permettent d'être optimiste en Tunisie. Il y a d'abord l'effet taille. La Tunisie est un tout petit pays, 12 millions, les besoins financiers ne sont pas aussi importants. Le deuxième facteur d'optimisme, c'est l'effet géographie, proximité des grands marchés. Il faut savoir que Rome est éloigné de 45 minutes par avion, Paris 1h30, 2h moins un quart. Et ça, c'est important dans les échanges économiques et commerciaux. Chefs d'entreprise peuvent venir, c'est à côté. Et le troisième effet, c'est l'effet éducation et formation, où nous disposons aujourd'hui d'une main-d'œuvre jeune, formée dans différents domaines où l'Europe a le plus grand besoin, notamment médecine, nouvelles technologies, ingénierat, etc. Et on assiste à un exode massif de la part de nos jeunes compétences qui commence pour moi à être véritablement une énorme source d'inquiétude et un souci très important. Et je pense que c'est important de mettre cet exode qu'on ne peut pas stopper dans le cadre de la négociation des prochaines relations entre la Tunisie et l'Europe.
Orient Hebdo sur RFI.
Alors justement, vous évoquez cette migration des jeunes très bien formés en Tunisie avec un niveau de compétences reconnu à l'étranger. Pourquoi n'y a-t-il pas plus d'emplois très bien rémunérés ici en Tunisie pour que la jeunesse reste?
Je pense, pour expliquer cet attrait de l'Europe et de l'étranger, et surtout du Canada aussi. La première raison, c'est probablement inquiétante pour la classe moyenne, c'est l'instabilité politique. Instabilité politique, etc. Et les gens vous le disent tout le temps, je ne fais pas ça pour moi, parce que moi c'est fini, c'est pour mes enfants. Pour être dans un pays où il y a un pays beaucoup plus stable du point de vue politique. Et donc ces soubresauts de l'histoire et de la transition démocratique sont une grande source d'inquiétude pour beaucoup de Tunisiens et particulièrement pour les classes moyennes bien formées et qui ont la possibilité d'aller ailleurs. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est bien évidemment une grosse détérioration, comment dire, du pouvoir d'achat des classes moyennes, etc., qui fait que le choix de l'ailleurs devient attrayant. Et c'est ce qui explique ces grandes vagues de migration. Et d'ailleurs, les chiffres ne se trompent pas. Aujourd'hui, le transfert des revenus des travailleurs immigrés tunisiens à l'étranger devient une des principales sources faites de devises pour le pays, plus importante même que le tourisme. Pour une raison très simple, c'est que c'est plus l'immigration des main-d'œuvre et des ouvriers spécialisés, c'est maintenant l'immigration des grands cadres très très bien payés, des ingénieurs, des médecins, des grands chefs d'entreprise, etc. Et particulièrement ceux qui ont été formés en Tunisie qui sont partis. Ils gardent une grande relation avec la Tunisie, contrairement par exemple aux enfants d'immigrés, où la relation est plus distendue, mais c'est un vrai souci, une source d'inquiétude, et je pense jusqu'à présent, elle n'a jamais été posée, cette question, dans les débats avec les pays européens, mais je pense qu'il va falloir la mettre un jour au débat. C'est pas normal qu'un médecin, des profs de médecine, c'est-à-dire qui ont été formés pratiquement pendant une quinzaine d'années en Tunisie, dans des universités publiques, partent sans rien, et ils vont exercer dans les grands hôpitaux européens ou américains sans que la Tunisie ne reçoive quoi que ce soit. Donc, ce n'est pas normal. Le système tunisien était basé dans le temps. Lorsque vous rentrez dans une université de médecine, vous avez une obligation d'exercer un certain nombre d'années dans l'hôpital public au risque d'être poursuivi. Je pense que c'est une loi. Beaucoup demandent aujourd'hui en Tunisie de revenir à cette loi. Je pense très franchement, c'est une loi totalement dépassée et toujours difficile aujourd'hui de résister à la volonté de départ. Donc il faudra que ce soit une négociation beaucoup plus macroéconomique entre la Tunisie et ses partenaires pour discuter sérieusement de cette situation et essayer de trouver des solutions.
Ne manque-t-il pas aujourd'hui en Tunisie la création de filières importantes dans certains domaines d'avenir, donc une sorte finalement de vision d'avenir ?
Ah oui, oui, totalement. Manque de futur, dirait le philosophe, est importante. Hein. C'est pas seulement en matière de formation, mais en matière d'industrie, de choix industriels, en matière de contenu des programmes d'éducation, en matière de formation. Je pense que la Tunisie est en friche. Et elle a besoin véritablement d'un grand projet, d'une grande vision du futur.
Aujourd'hui, la Tunisie négocie avec le Fonds monétaire international, le FMI. La discussion vous semble-t-elle s'engager de bonne façon, vous qui avez été dans les grandes institutions internationales, économiques et aussi au gouvernement ?
Très franchement, j'espère que ces négociations débouchent. Mais on est dans ces négociations depuis pratiquement le mois d'avril 2020. C'est-à-dire la Tunisie a fait une erreur. Elle a accepté l'offre du FMI de transformer ce qui restait de l'accord, du financement de l'accord qu'elle avait conçu avec le FMI, signé avec le FMI quelques années avant. On a un soutien contre la pandémie et depuis, nous sommes en pleine discussion avec des va et des viens, des hauts et des bas, mais sans que ça n'aboutisse. Je pense que la responsabilité est partagée. Je pense que les exigences du FMI deviennent très fortes. Très peu de gouvernements peuvent l'accepter. Les réformes qu'ils demandent sont un coût social important et peu de gouvernements peuvent s'engager sur ces réformes. Et de l'autre côté, le gouvernement tunisien, je pense, il y a un minimum de réformes qu'il doit être en mesure de mettre en place pour stabiliser la situation macroéconomique. Donc en Tunisie, on a tendance à mettre la responsabilité sur le dos du FMI, mais je pense très personnellement que les torts sont partagés.
Mais pour bien négocier avec le FMI, il faut d'abord avoir un projet et ensuite être soutenu en interne.
Absolument. C'est les conditions de réussite d'une négociation. Il faut avoir un projet. Il n'y a pas plus compliqué pour une institution internationale, le FMI ou autre, lorsqu'il se trouve dans un pays, dans une négociation avec un pays qui n'a pas de projet. On a besoin d'un projet. On va discuter le projet. Mais un projet, ça veut dire que le gouvernement a une vision. C'est ce qu'il veut. Et la deuxième chose, bien évidemment, c'est d'avoir un consensus, pas un accord, mais au moins un consensus large sur les grandes priorités du gouvernement en interne, par les syndicats, par les partis politiques, etc. Ça, c'est les deux conditions essentielles pour véritablement parvenir à un accord, pour avoir de bonnes négociations.
Et cela ne vous semble pas d'actualité aujourd'hui ?
Non, je ne crois pas que le gouvernement ait une vision claire sur ce qu'il veut des négociations avec le FMI. Et en tout cas, il n'en parle pas. On sait qu'il négocie sur des choses, mais en tout cas, il ne parle pas. Et c'est clair, le peu qui nous parvienne de ces négociations, les grands syndicats ne sont pas d'accord. Et donc, ça va être, encore une fois, j'espère qu'on ne va pas, comme dirait l'autre, partir pour un tour. J'espère que les négociations vont déboucher sur un accord nécessaire pour la Tunisie. Mais en même temps, je reste circonspect parce que les négociations tardent. Ces négociations ont commencé il y a plusieurs mois et elles ne débouchent pas. On ne voit pas les négociations accélérées. C'est toujours des délais toujours reportés. Et ce qui est la preuve de grosses difficultés dans ces négociations.
Merci Hakim Ben Hamouda.
Merci Eric Bataillon.
Chaque mois, ça a changé les prix. Par exemple, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de café. On n'a pas de farine, le pain, c'est beaucoup de problèmes. Mais la Tunisie est belle, oui, avec beaucoup de problèmes et toujours j'aime beaucoup mon pays.
Merci à Mathias Golshani qui a mis en onde et réalisé ce nouveau numéro d'Orient Hebdo. On se retrouve avec plaisir samedi prochain. Prenez soin de vous.